Chapitre 28. Le moins que l'on puisse dire est que ma mère a fait preuve d'une efficacité redoutable en ce qui concerne la mise en vente de mon appartement. À peine était-elle rentrée chez elle qu'elle avait contacté son ami agent immobilier comme elle me l'avait promis. Et niveau efficacité, celle-ci n'était pas en reste. Il ne lui a pas fallu 72 heures pour prendre des photos, rédiger l'annonce, mettre en vente le bien, faire quelques visites et recevoir une offre d'achat. Je mentirais si je disais que ça ne m'a pas fait un pincement au cœur de contresigner cette proposition ce matin à l'agence. Il m'a fallu tant de mois de recherche pour tomber sur cet endroit. Ça a été un tel coup de foudre, à peine la porte franchie. Pourtant, derrière le pincement au cœur, il n'y a aucun regret. La sérénité qui me gagnait instantanément lorsque je rentrais chez moi s'est envolée à la mort de Meryl. Tout cet appartement me rappelle les moments que j'y ai passés avec ma fille. Et c'est trop douloureux. Sam a proposé de temporairement m'héberger pour les nuits entre deux voyages. En temps normal, j'aurais refusé, arguant que je ne voulais pas m'imposer. Mais là, j'ai accepté sans autre formalité parce que je sens qu'il faut que je réfléchisse à l'endroit où j'ai envie de me poser, avant d'entreprendre la moindre démarche. Depuis plusieurs jours, je suis complètement perdue dans mes émotions. Si la colère ne m'a pas encore quittée, elle cède de plus en plus souvent la place à d'autres sensations moins claires et plus inconfortables. J'ai parfois l'impression d'être au bord d'un précipice, attirée vers le fond mais en même temps terrifiée à l'idée d'y tomber. Bien qu'elle ne m'en ait pas reparlé, je repense de plus en plus souvent à ce que m'a dit ma mère à propos de Stéphane, au fait de lui accorder mon pardon. Si cela me paraissait inconcevable il y a encore quelques semaines, je n'en suis plus aussi certaine aujourd'hui. Même si j'ai beaucoup de mal à l'accepter. Paradoxalement, je ne peux m'empêcher de voir cela comme une trahison, comme si pardonner conférait à la mort de ma fille une piètre importance. La lettre écrite par Stéphane est dans mon sac à main. Je ne sais pas trop pourquoi je l'ai emportée, mais au moment de faire mes bagages, je l'ai aperçue posée sur le bureau de ma chambre d'hôtel, à l'endroit même où ma mère l'avait laissée. Je n'avais même pas osé la toucher pour la déplacer. Il m'a fallu calmer le tremblement de ma main, et juste avant de partir tôt ce matin, je l'ai saisi, puis sans trop y réfléchir, l'ai glissé dans mon sac. Peut-être que je vais la lire. Ou peut-être pas. Pour le moment, j'essaie de mettre tout ça de côté et de me concentrer sur le présent et mon déménagement. Un pas après l'autre. Pour ne pas être seule avec mes souvenirs, j'ai demandé à Gwenolé s'il acceptait de m'accompagner et de m'aider à mettre une bonne partie de ma vie en carton. Il était très heureux de cette proposition. Je crois que lui non plus n'a pas envie d'être seul en ce moment. S'il parvient à espacer tout doucement les visites à son épouse, je devine à ses silences et à son regard parfois si triste que c'est loin d'être facile pour lui. Sam a également promis de passer dans l'après-midi pour nous filer un coup de main. Ma mère sera elle aussi présente. Elle saisit la moindre occasion, même peu agréable, pour passer du temps avec moi. Après tous ces mois de distance, cette soudaine proximité me met parfois mal à l'aise. Je réalise que j'ai perdu l'habitude de ce lien avec l'autre. Alban a également supplié son père de la laisser venir avec nous, plus pour l'aventure que pour l'aide à apporter à mon avis. Mais contrairement à ce qui s'est passé pour le restaurant après le vétérinaire, cette fois-ci, Frédéric s'est montré inflexible, il a refusé.
« Ça va aller ?»
me demande Gwenolé avec beaucoup de sollicitude. Alors que nous sommes devant la porte de chez moi depuis au moins 5 minutes, sans que j'aie été capable d'esquisser le moindre geste pour l'ouvrir. Pour être tout à fait honnête, j'en sais rien du tout. J'ai décidé de vendre, mais maintenant que nous sommes devant cet appartement, c'est une autre histoire. Et j'ai peur de m'écrouler une fois à l'intérieur.
« Je vous rattraperai »,
répond Gwenolé avec beaucoup de gentillesse. C'est pour ça que vous m'avez demandé de vous accompagner, non?
Je ne crois pas que ce soit pour mon impressionnante capacité à transporter un réfrigérateur.
Malgré moi, je ne peux m'empêcher de rire.
Si je n'étais pas parfaitement conscient de mes faibles capacités physiques, je crois que je me vexerais,
s'écrie-t-il amusé. Merci d'être là. Vraiment. Je sors de mon sac ma clé. La tourne dans la serrure, puis ouvre la porte, me préparant mentalement à être envahie par les émotions. Curieusement, il n'en est rien. Je fais quelques pas pour pénétrer à l'intérieur des lieux, Tout est à sa place. Rien n'a bougé. Mais c'est comme si les couleurs étaient moins vives. Comme si tout avait été recouvert d'un voile grisâtre, ternissant la chaleur de l'ensemble. Alors que je devrais en être soulagée, cela ne fait que me laisser perplexe. Quoi qu'on en dise, la colère est une émotion bien moins déstabilisante parce que, au fond, elle est simple et basique.
Alors, comment vous sentez-vous ? M'interroge Gwenolé.
En terre inconnue, réponds-je au bout de quelques secondes. C'est comme si cet endroit ne m'appartenait déjà plus. Comme si toute ville avait désormais quitté. Je n'ai cependant pas le temps de m'apesantir davantage sur ce constat, car nous sommes rejoints par ma mère chargée de cartons pliés et de tout l'attirail du parfait déménageur. Gros rouleaux de scotch marron, sac poubelle, marqueur indélébile ainsi qu'un sac glaciaire contenant sans doute des boissons fraîches et, connaissant ma mère, des trucs à grignoter.
Vous devez être Gwenolé. Ma fille m'a beaucoup parlé de vous et de votre goût très sûr pour les cravates.
Gwenolé baisse les yeux sur celle qu'il porte aujourd'hui, de couleur violette avec pour motif des poussins jaunes, et rougit de plaisir.
Ravie de vous rencontrer, chère madame.
Appelez-moi Michel.
Bon, par quoi veux-tu commencer, Roxane ?
Je ne sais pas, peut-être par le salon ? Hasardai-je. Partout où je regarde, il y a des choses à mettre en carton, à démonter, à jeter. Jamais je n'aurais cru amasser autant d'objets en quelques années. Nous ne perdons pas de temps et nous attelons donc à la tâche. Je commence à vider les tiroirs dont je pose le contenu sur la table de la salle à manger, pendant que ma mère remet en forme plusieurs cartons pour recevoir ce que je vais décider de garder. Nous nous activons ainsi pendant près de 3 heures, rejoint entre-temps, comme elle me l'avait promis, par mon ami Sam. Je décide donc de ce que je garde, nous déposons le tout dans les cartons que nous refermons ensuite avec du scotch, avant d'inscrire sur le dessus la pièce de destination dans mon futur chez moi. Chaque carton est également numéroté et son contenu précis répertorié dans un cahier, histoire de ne pas avoir à tout déballer pour trouver le gaufrier en cas de besoin. Ma mère disposant d'un grand garage vide attenant à sa maison, il est prévu que nous y stockions les cartons en attendant que je trouve un autre logement. J'ai réservé un camion de déménagement qui viendra tout débarrasser la semaine prochaine. Au fur et à mesure que les cartons s'empilent le long du mur du salon, l'appartement se vide et se dépersonnalise. Il ne reste plus qu'une dernière pièce, celle que je redoute, et dans laquelle je n'ai plus mis les pieds depuis l'accident. La chambre de Meryl. Après l'enterrement, je me suis contentée de fermer la porte, restée entrouverte, sans jamais trouver la force de la rouvrir depuis. Pourtant là, il va bien me falloir la trouver, cette force. Sam m'a proposé de tourner la poignée à ma place, mais j'ai refusé, sans hésitation. Si ce que je m'apprête à faire est incroyablement difficile, je sais pourtant que je dois le faire. Sinon, je le regretterai. Devant la porte, rien que l'écriteau me coupe le souffle. Une simple feuille de papier qu'elle a scotchée avec du masking tape rose, ornée d'étoiles argentées et sur laquelle elle a écrit de son écriture encore mal assurée. Toqué avant d'entrer.
À partir de maintenant, tu as plus le droit d'entrer dans ma chambre sans frapper, maman. Je suis grande maintenant. Ah oui. Oui. Et je voudrais aussi choisir mes habits pour aller à l'école. Je veux plus mettre que des leggings. Les collants, ça gratte.
Ah oui, c'est comme ça. Mais est-ce que tu acceptes encore que je te fasse des chatouilles ou pour ça aussi tu es trop grande?
Je suis trop grande pour les chatouilles. Mais tu peux encore me faire des bisous. Pas devant mes copines. Et me lire une histoire le soir.
On va voir si t'es trop grande pour les chatouilles. Attends que je t'attrape.
Meryl s'était enfuie en poussant des cris. Moi, à ses trousses avant que je réussisse à l'attraper et à la bloquer sur le canapé pour une séance de chatouilles en bonne et due forme. Nous avions tellement ri que nous en avions eu mal aux côtes. Si rien qu'un écriteau provoque un souvenir, qu'est-ce que ça va être une fois que je serai rentrée dans la chambre? Je ne vais pas y arriver. C'est trop dur. Murmurai-je.
Ce ne sont que des objets, maman.
Je me retourne brusquement, mais comme la dernière fois dans la voiture, il n'y a personne. Je ne sais si c'est mon cerveau qui crée cette illusion ou s'il s'agit d'autre chose, mais au fond, peu importe. quelle que soit l'explication. Avoir entendu la voix de Meryl me procure du courage pour pousser la porte de la chambre, comme cela m'en a procuré pour démarrer la voiture et conduire Neige chez le vétérinaire. Tout est comme elle l'avait laissé avant de partir chez Xavier. Son grand lit à baldaquin en bois blanc, avec des rideaux turquoise dont elle m'avait rebattu les oreilles pendant des mois, trône toujours à droite de la pièce. La couette est en boule au bout du lit.
Ça ne sert à rien de faire son lit le matin, maman, puisque de toute façon on redort dedans le soir.
Ses peluches, en revanche, sont bien alignées, à côté de l'oreiller. Sur sa table de nuit, posée sur son socle à côté du lecteur CD, son micro. Sans doute ce à quoi elle tenait le plus. Je le lui avais offert pour son anniversaire. Un vrai micro, qu'elle devait quasiment tenir à deux mains tant il est lourd. Elle n'épargnait ni son temps ni mes oreilles pour faire des vocalises et s'entraîner. Sur les murs, des posters de son idole, la chanteuse Louane. J'avais accepté qu'elle en accroche un, puis d'un on était passé à deux, puis trois, et les murs de la chambre avaient fini par en être tapissés. En dessous de la fenêtre, courant le long du mur, un meuble banc avec des bacs à jouets intégrés, jouets avec lesquels pour la majorité elle ne jouait plus, mais qu'elle exhumait malgré tout quelques heures chaque fois que je proposais de les donner. Face au lit, son bureau, dont on ne distingue plus le dessus tant il est recouvert de tout un tas de bricoles, des feutres, des bracelets, des carnets, des rouleaux de masking tape, des objets non identifiés en cours de fabrication. Je n'ai pas vraiment réfléchi à ce que j'allais faire de tout ce qui se trouve dans cette chambre. S'il me sera facile de donner les vêtements à une association, pour le reste, est-ce que j'ai envie de tout conserver? Ce ne sont que des objets, après tout. L'essentiel restera toujours dans mon cœur. J'entre dans la chambre et décide de commencer par le bureau. Je pose dans un petit carton quelques-unes de ses créations, celles dont je me souviens parce qu'elle me les avait montrées et longuement détaillées, et je mets le reste dans un sac poubelle. Au final, cela me prend bien plus de temps de vider cette pièce que le reste de l'appartement, mais j'y parviens avec tout du long cette sensation de chaleur, comme des bras serrés qui m'entourent. Je n'ai jamais vraiment prêté intérêt à toutes ces croyances mystiques. Pourtant, je pourrais jurer que cet après-midi, Meryl était avec moi. Et sa présence m'a apporté du réconfort. Ça y est ? M'interroge ma mère lorsque je rejoins toute la troupe dans le salon avec dans les bras le carton contenant ce que je souhaite conserver. Aucun d'eux n'est venu me déranger et je leur en sais gré. Ouais, j'ai mis tout ce qui est à jeter dans les sacs poubelles et ce qui est à donner se trouve dans des cartons sur le lit. Pour ce qui est des meubles, je m'en occuperai, ne t'en fais pas. Me coupe ma mère. Merci, murmurai-je, sentant soudain le poids de la fatigue tomber sur mes épaules. Bon, je crois qu'on a terminé. Et si on allait boire un verre pour se récompenser? Enchaîne Sam, devinant sans doute que je suis sur le point de me mettre à pleurer. Le bénévolat, ça s'arrose?
C'est moi qui invite. Enchaîne Gwynolé Guilleret. J'ai toujours rêvé de prononcer cette phrase, explique-t-il. Dans les films, celui qui dit cela est toujours éminemment sympathique.
Je dépose le dernier carton, celui de Meryl, sur la pile le long du mur. Et lentement, j'en détache mes mains, avant de faire un pas en arrière. Chacun récupère ses affaires, puis nous sortons de l'appartement que je ferme une dernière fois, avant de tendre la clé à ma mère. Sam place son bras sous le mien et m'entraîne vers la sortie. Une page se tourne. Ces derniers temps, cet appartement ne m'aura vue que malheureuse, mais je préfère retenir qu'il m'aura aussi connue, incroyablement heureuse.